Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Marlène pour une heure de direct, comme tous les premiers samedis de chaque mois. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission un peu plus tard, en podcast ou en rediffusion, le mardi qui suit cette émission, de 19 à 20 heures. Avant de présenter mes invités, qui seront essentiellement des femmes, pour la quinzaine des droits de la femme, c'est un petit peu normal que je le fasse cette semaine-là. Cette semaine à Carpentras aura lieu du 3 au 18 mars et sera en partenariat avec la ville de Carpentras. Je tiens à citer un événement dans le cadre de ces semaines, un événement que je pense important puisqu'on me l'a signalé. Le jeudi 10 mars à 18h30 se tiendra à l'association ESC, association que j'ai déjà reçue, l'espace social et culturel de Ville-Marie, qui est situé au 73 rue Parocel, que vous pouvez trouver au 04 90 60 03 13, un vernissage d'une exposition qui est intitulée « La transmission ». Ce sont des photos de mères et de filles qui ont été réalisées par Thierry Pétrone, que je salue. C'est un animateur très impliqué dans cette association et que j'ai déjà reçu, bien sûr, au micro. Des remerciements aussi à Franck Dupin, adjoint au sport, parce que aussi le sport est présent et que lors de la conférence de presse, il nous a parlé de tous les événements qui se passent à l'OMS et que vous pouvez retrouver aussi à l'Office de tourisme ou aller directement à l'OMS. Et puis je salue une autre personne aussi qui est très active, qui s'appelle Aurélie Joubert-Devez, pour son association « Je cours pour ma forme ». Et qui s'occupe du bien-être à Pernes-les-Fontaines, que vous pouvez appeler au 06 19 03 19 75. Je pense aussi à d'autres femmes comme Marie-Claude et Sandrine pour leur anniversaire. Et puis un petit mot, parce que je n'allais pas les oublier, ce sont mes collègues avec qui je travaille ici à la radio, avec grand plaisir, Annick, Valérie, Sylvette et Marie. Pour la première, la littérature, seconde, le sport, Sylvette, les divertissements et on a aussi l'entreprise, tout ça à notre radio. Donc pour cette occasion, j'allais vous inviter aussi avec nous sur ce plateau pour la journée de la femme et pour inviter, je reçois André Philos, bonjour André.
Bonjour.
Et Daniel Mann, bonjour Daniel.
Bonjour.
Voilà, et leur association, enfin une est présidente et l'autre est femme solidaire, comme elle se plaît à le dire, et je pense qu'elle nous expliquera tout à l'heure. Je donne la parole à André pour son association UFF.
Alors justement, je commence par dire, c'est pas semaine de la femme, c'est semaine des droits de la femme.
C'est bien de le préciser.
Voilà. Notre association existe à Carpentras depuis 1945. Elle s'est perpétuée en prenant des attitudes diverses. La première fois, c'était pour rendre service après la guerre, lorsque notre pays n'avait plus rien. Donc, c'était une œuvre plutôt humanitaire qu'accomplissait cette association. Puis, petit à petit, on s'est orienté vers donner la place des femmes dans notre société. Alors, nous sommes une association d'éducation populaire. Nous sommes aussi une association qui avons participé aux luttes pour avoir le droit de vote des femmes dans notre société. 1944 et premier vote 1945. J'étais petite fille à Carpentras, je m'en souviens.
C'est bien de le préciser.
Oui. Alors, après, il y a une autre étape, c'était engager les femmes à aller voter, parce qu'elles avaient des freins pour faire cette démarche, et à voter en toute indépendance. Ni mari, ni rien qui les conseillait. Nous avons aussi fait connaître les nouvelles lois qui sont un plus pour les femmes dans notre société. Par exemple, nous avons participé aux manifestations, oui, des manifestations qui ont amené aujourd'hui à la maîtrise de la fécondité chez les femmes. Ça a été un long combat. Là aussi, nous avons fait à Carpentras des rencontres avec médecins gynécologues pour expliquer, pour convaincre que c'est possible. Et surtout pour dire, il circule des bruits faux, on peut prendre la pilule sans craindre grand-chose. Donc on avait fait un 8 mars à la chapelle des pénitents blancs, mais ce n'était pas encore la semaine des droits des femmes. Cette maîtrise de la fécondité a débouché sur une entrée en force des femmes dans la vie économique et dans le travail. Vie active. Et là encore, on a découvert de nombreux domaines à explorer. Égalité des salaires, femmes, hommes, pour un même travail. Pas de salaire à temps partiel qui soit imposé, parce qu'on est femme, vous travaillerez que quelques heures, si bien qu'à la retraite, vous aurez une petite, petite retraite. Lutter aussi contre les métiers qui sont réservés aux femmes, à savoir s'occuper des enfants, alors qu'elles, elles souhaiteraient parfois choisir des métiers qui sont dits à dominante masculine. Mais si elles veulent faire autre chose, nous, on soutient les femmes qui veulent vraiment faire ce qu'elles veulent dans leur vie professionnelle. Nous nions le fait qu'il y ait des métiers de femmes. D'abord, sage-femme, maintenant, il y a des hommes. Et là, on est bien contents. Après, il y a eu une autre grande bataille, c'est l'exigence de la parité dans les instances, que ce soit le syndicat, les partis politiques. Et ce n'est pas terminé, cette lutte pour la parité. À Carpentras, nous avions organisé une grande rencontre avec les femmes pour expliquer cette loi et les convaincre que c'était possible. On y croyait et depuis, on a fait des expériences. Parité, c'est pas évident. On se fait même avoir parce qu'on met un homme, une femme, et c'est l'homme qui est élu. Enfin, on a connu tous les abus possibles, toutes les adaptations possibles. Donc,
c'était dans les années combien à peu près ça?
Oh, la parité, je ne sais plus moi quand c'est arrivé. On continue encore parce que même maintenant. On vous dit, on a un gouvernement à parité. Ce n'est pas vrai. Les places les plus importantes, elles sont toujours réservées aux hommes. Voilà. Alors, autre problème que je voudrais dire. La place des femmes dans la société est démontrée par les intitulés des ministères ou leur disparition. Alors, on avait un ministère à temps plein. Maintenant, il n'y a plus que des secrétariats d'État dont le nom du dernier n'est pas prêt de nous convenir, à savoir le ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Alors là, je le dis, il y en a assez. On n'est pas seulement épouse, on n'est pas seulement mère, on existe.
Ben merci André, je vous coupe 2 minutes, on va faire une petite pause musicale et puis on va reprendre le sujet fort intéressant. Merci, à tout de suite.
Découvrez les hits de demain avant les autres. Avant les autres.
Hey yo bro, we're about to start, man. Get to the mic. Oh, so incredible. Love the way you roll. Straight up on your toe. Oh, 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 oh. You just made a show. My sexy cameo. Now you're in the spotlight. Girl, if there's a ticket, I've got to buy it. Wouldn't miss you for the world. See you deep in the zone. You made me wanna give you a microphone so you can go and sing my song. I'll be waiting in the wings for you to lead me back on. Maybe we can do this all night long. Have the people screaming, yeah, 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 yeah. Is there some way I can get you by my side? We can be a duo. Yeah.
en direct au micro. Vous êtes avec André Filoz, présidente de UFF Femmes Solidaires, et de Danielle Mann, une femme solidaire et adhérente et cheville ouvrière, d'après ce que j'ai entendu dire de la présidente. André, pour finir le début du sujet, et puis après on donnera la parole à Danielle pour nous expliquer un sujet un peu plus, disons, délicat.
Voilà. Donc, en 2015... nous avons vécu des choses hallucinantes dans notre pays. Les guerres qui se multiplient, les conflits, les essais nucléaires qui ont été repris, le terrorisme sur notre sol, les brouillards de pollution, la COP21 qui a abordé timidement la survie de notre planète et les violences conjugales qui perdurent, comme celle subie par Jacqueline Sauvage, qui, je crois, avait fait l'unanimité pour elle. Alors, nous souhaitons aborder le problème des violences. Et là, je pense que je vais
donner la parole à Danielle,
qui va nous parler des violences suite au conflit que nous vivons.
Au conflit, oui.
Oui, aujourd'hui, les conflits nous mènent vers des débordements et on considère vraiment la femme comme un objet. Elle n'est plus du tout légale, ni la complémentarité, elle est carrément l'objet. Et donc, dans certains pays, on se sert d'ailleurs de la violence, du viol de guerre comme d'une arme. Et ça, c'est terrible parce que c'est sur plusieurs continents. Et je prendrai l'exemple essentiellement du continent africain où il y a un homme remarquable qui travaille sur cette problématique. D'ailleurs, il y aura un film qui se passera au Rivoli, et cet homme reconstruit les femmes dans leur corps, mais aussi dans leur tête.
Alors j'aimerais que vous expliquiez un peu, parce que c'est important aussi de savoir, ça paraît bizarre vu de l'extérieur ou d'entendre ça, comment peut-on reconstruire une femme?
On la reconstruit physiquement, c'est de la chirurgie hélas, tout ce qui a été détruit, on essaie de le reconstruire d'une façon chirurgicale, mais ce qui est important aussi, c'est de la reconstruction mentale, parce que ces femmes on a abusé d'elles, certes, elles se sont souvent retrouvées enceintes, elles n'ont pas voulu de ses enfants, donc rejet de l'enfant, où on l'accepte, mais avec un très gros poids, et il sera le fruit de ce viol, donc il sera toujours devant les yeux. Donc lui, il essaie de leur montrer à quel point la vie doit continuer néanmoins, et que quelque part, il faut qu'elles en parlent. L'important aujourd'hui, dans toutes ces violences qui sont faites aux femmes ou aux enfants d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est absolument communiquer, parler, échanger, ne pas avoir peur, sortir du bois et dire, parce qu'il y a trop de violences ou d'autres, comme l'inceste ou autres, dont elles ne veulent pas parler. Aujourd'hui, je crois que pour se soigner, il faut qu'on en parle. Et la violence faite aux femmes, quelle que soit la violence, parce qu'elle touche aussi tous les corps de la société. Je veux dire, il n'y a pas de gens, quels que soient les gens de la société, petits, grands ou moyens, tout le monde est touché par ce genre. Et moi, je suis très touchée par cette problématique aujourd'hui, qu'on puisse, en 2016... parler encore de cette violence qui devient en plus, je crois qu'elle s'est encore aggravée avec le temps. Comme si on revenait quelque part au Moyen-Âge, quelque part où on considère la femme comme nulle et comme un objet, c'est tout. On se fait plaisir, l'homme se fait plaisir et il agit contre la femme n'est plus considérée comme un être à part entière, il est considéré comme un objet et ça c'est inadmissible. Nous en tant que femmes solidaires et en tant que moi femme solidaire qui défend les femmes un peu partout où je vais, elles me disent toujours surtout ne nous oublie pas et quand tu rentres chez toi parle de nous et en parlant de nous vous nous aidez. Si vous n'êtes pas présente on ne pourra pas s'en sortir nous dans nos pays. Où on n'a pas le droit d'en parler.
Alors derrière ces reconstructions physiques, on parle de chirurgien, moi j'aimerais aussi la reconstruction mentale parce qu'on n'en parle jamais, on pense que c'est inefficace ou alors que ça ne sert à rien et pourtant Dieu sait si le corps c'est quelque chose, mais l'esprit encore plus. J'aimerais savoir qui fait partie de ces équipes, où on peut les trouver, comment la femme peut aller voir. Alors dans les pays à l'extérieur, comme l'Afrique, les pays dont vous avez cité, est-ce qu'il y a déjà des équipes formées? Est-ce que ce sont des médecins du monde? Comment peut agir une association dans ce sens-là?
Alors, je crois qu'elles ne sont pas suffisamment axées sur ce bien fondé de parler et de s'exprimer. D'abord, elles n'ont pas toujours envie d'en parler non plus, parce qu'elles sont dans le silence, elles sont dans la culture, et qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne se plaint pas, et on ne le met pas en avant. Et souvent, les associations étrangères qui vont sur les pays, ils soignent surtout le corps, mais pas forcément essentiellement l'esprit et la reconstruction. Et je pense que c'est un grand manque dans toutes les associations. On peut pas les dénigrer, on peut pas dire qu'elles ne font pas de travail, mais je pense que c'est un gros problème. Et quand elles peuvent se mettre en place, certaines associations menées par des femmes africaines, par exemple, Elles ont vraiment beaucoup de courage, hein, parce que.
Et quel est votre rôle, par exemple, pour arriver à monter une association ou pour aider ces associations qui se trouvent à l'extérieur de la France et dans des pays dits défavorisés?
C'est-à-dire, sur le terrain, essayer de parler avec elles, de communiquer, de faire un point d'écoute, ce qui n'est pas toujours facile, mais moi j'essaye de le faire au maximum. Je le fais souvent à travers leurs enfants. L'enfant me sert quelque part,
oui, parce que,
de lien.
Voilà, là j'aimerais, c'était pas le sujet puisqu'on a reçu UFF, mais je sais que vous êtes aussi présidente d'une autre association, et là il faudrait quand même qu'on en parle un petit peu, parce qu'il s'agit quand même de l'enfant et de la femme, donc.
Oui, et de l'enfant qui est maltraité. Je ne m'occupe que d'enfants démunis et en détresse. Donc à travers ces enfants démunis et en détresse, c'est une façon, quand on parle de l'enfant, on parle de la mère, quand on parle de la mère, on parle de l'enfant.
C'est indissociable.
Et donc c'est indissociable. Donc quand je m'occupe de leurs enfants, elles savent qu'on va donner quelque chose à leurs enfants, donc elles viennent vers moi et là j'essaye de les conseiller et les mettre en rapport avec des gens que je connais sur le terrain, des gens de valeur, mais aussi qui n'ont pas la crainte et qui ont l'ouverture d'esprit, ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on ne la laisse pas parler. Donc j'essaie au maximum de faire du travail, et moi d'en parler quand je rentre. Parce qu'il faut aussi ramener la parole d'ailleurs. Ramener la mienne, mais ramener la leur. Pour que quelque part, elles sachent qu'elles sont entendues, et qu'il ne faut pas les laisser dans l'ombre, et qu'il faut les aider de cette façon-là. Ce n'est pas facile. C'est même très compliqué.
Tout ça, ça se passe dans le monde. Alors, ça nous paraît très loin, c'est pourtant l'Afrique. Mais en France, qu'est-ce que c'est qui est fait aussi pour la femme et leurs enfants?
Oui, alors en France, il y a des associations sur l'enfance maltraitée, par exemple, qui est la Voix de l'Enfant, hein, qui, avec laquelle je travaille, puisqu'on est 78 associations à travailler autour de l'enfance. Et puis sur les femmes, l'Union des femmes françaises, par exemple, elles aussi, elles parlent, elles savent écouter, et elles savent aussi faire des conférences, des réunions, aller se déplacer dans les pays. Notre but, il est surtout là, c'est de mettre en lien, en relation. Nous, quand on vient nous voir, on donne des idées, on donne des contacts, on leur dit...
Vous avez un rôle de contact, c'est vous qui mettez en contact avec des soignants, avec d'autres associations, ça se passe...
Avec l'existant, ce qui existe, par exemple, sur la place de Carpentras.
Est-ce que, déjà à Carpentras, alors revenons à notre Carpentras, qu'est-ce qui se passe sur Carpentras maintenant?
À Carpentras, il y a des associations qui sont complémentaires de l'UFM, où il est... Je ferai juste une petite doléance. Il est fort dommage que toutes les associations qui tournent autour de la femme ne se réunissent pas pour travailler ensemble. Le vivre ensemble, il devrait commencer par là.
Si vous le voulez bien, Daniel, on va développer ce sujet qui me paraît très important, parce qu'on va peut-être faire un appel aujourd'hui. Donc on va partir sur une pause musicale et on va recentrer le débat sur ce qu'on peut faire pour réunir toutes ces associations. À tout de suite.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
We were cheek. They called us the pop kids, 'cause we love the pop hits and quoted the best bits. So we were the pop kids. I loved you. I loved you. They called us the pop kids. The pop kids.
De retour sur le plateau, je suis avec Daniel Mann et André Filoz. Daniel était en train de nous parler de toutes les violences faites aux femmes et puis surtout le dernier point qu'elle a soulevé, c'est-à-dire cette non-communication qu'il y a entre les associations. Et c'est bien dommage parce qu'il y a énormément d'associations. Elle en a cité le nombre qui était phénoménal à mon entendement. Combien vous avez dit tout à l'heure?
78, mais autour d'une seule association, voilà. Une seule fédération.
Donc Daniel, j'aimerais un petit peu savoir ce que vous aimeriez qu'il soit possible de faire, parce que c'est toujours pareil, cette réunion de femmes et d'associations de femmes qui pourraient peut-être déboucher sur un projet un peu plus important.
Alors, à propos de cette demande et ce grand souhait, je crois qu'il est dans le monde associatif globalement. Mais là, moi, ce qui me touche, c'est celui des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations. Je parlerai du département du Vaucluse, par exemple, où nous sommes très nombreuses. Le planning familial, autour des associations UFM, on a des comités. On a des liens les unes avec les autres, mais qui ne sont pas suffisamment forts. Par exemple, pour cette quinzaine des femmes, il aurait été important, intéressant, à mon point de vue, que quelque part, on ne soit pas dans le chevauchement de conférences, qu'on soit ou de films et autres, ou qu'on soit dans la complémentarité et qu'on ne vienne pas cacher quelque part une intervention par une autre. C'est complètement stupide, alors que ce qui est important, c'est qu'on aurait dû mettre, on devrait mettre tout à plat. Toi, tu fais ça à telle période, telle heure, ceci. C'est-à-dire, on aurait fait un panel, ça aurait pu durer plus que 15 jours d'ailleurs, et essayer d'étaler dans le temps pour que les femmes puissent aller après où elles le veulent et qu'elles aient le choix d'aller voir des gens, d'aller voir, entendre des conférences, voir des salles de voir des réunions, voir des films, parce que là on s'est beaucoup aussi basé sur les films, pour qu'elles puissent profiter de tous ces moments-là où elles auraient pu dire on n'est pas seule, on a tout ça, on peut aller voir, on peut taper à ses portes, c'est-à-dire qu'on leur ouvre une porte. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment clair, explicite, et que quelque part, on est de briques et de brocs, alors qu'on pourrait très bien, les unes avec les autres, les unes à côté des autres, et pas les unes cachant les autres. Pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que je suis... pour le réseau, je suis tout à fait, j'appelle ça une toile d'araignée. Et la toile d'araignée.
Une association qui s'appelle Réseau.
Voilà. Hein, il faut absolument qu'elle tisse sa toile, mais de telle sorte que la toile, elle continue à être solide et que les liens se fassent, mais qu'on ne soit pas dans le nombrilisme et dans l'individualisme. On doit être dans ce sens-là pour les femmes, comme pour les enfants, je le dis bien, dans le collectif. Moi, je suis contre le parrainage individuel, donc je suis pour les parrainages collectifs. Donc pour moi, c'est l'ensemble, ensemble. On dit vivre ensemble, vivons ensemble, déjà entre femmes, puisqu'on est des femmes, non de pipe.
Donc on peut déjà lancer cette idée. Et en plus, ça peut être un travail que vous pouvez peut-être faire pour l'année prochaine déjà, mais y penser peut-être cette année. Et peut-être avec le partenariat de la ville aussi, avoir une discussion plus importante et qui puisse aboutir justement, au lieu d'avoir un patchwork comme vous avez dit, d'avoir quelque chose qui tienne la route et peut-être aussi toute l'année. J'aimerais aussi qu'on parle un peu du cinéma Le Rivoli parce qu'il se passe énormément de choses et Florence Passalacqua fait beaucoup de choses aussi pour les films de toutes sortes d'ailleurs.
Elle a établi un programme extraordinaire là, pour cette quinzaine et là, j'invite beaucoup les femmes à se rendre au cinéma Rivoli, parce que Madame Passalacqua, elle est extra. Voilà.
J'ai fait un petit coucou à Aurélie en passant.
Voilà. Ensuite, j'invite aussi les femmes à venir nous retrouver au Préau des Arts, où, depuis des années, nous invitons des femmes artistes, des femmes les plus diverses. Et cette année, on s'est lancé un défi, c'est les femmes et la photographie. Alors, ça s'appelle « L'œil des femmes ». Il y aura 5 femmes qui nous prêtent leurs œuvres. Et elles seront très diverses comme sont très diverses les femmes. Il faut venir les voir. Mais en plus, chaque jour ou presque, nous lançons des animations. Par exemple, nous avons une petite causerie de Madame Marianne Boson-Chollet concernant Madame Vigée Lebrun, qui était la portraitiste avant que la photographie existe. Nous avons fait aussi appel à 2 carpentraciens pour nous parler de Carpentras et de la photographie lorsqu'existait cette usine qui s'appelait L'As de Trèfle et qui fabriquait du papier photographique. Nous aurons aussi une causerie de Jeanne Elouette sur la photographie, puisque elle fait beaucoup, beaucoup de photos. Elle est plus connue sous le nom de Graphie Jeanne. Donc, on aura aussi un après-midi, c'est le 11 mars, où aucun sujet, comme aujourd'hui, on parle de ce qu'on veut. C'est un regard des femmes sur l'actualité. Donc, personne ne mène la causerie, c'est le grand déballage des femmes. Alors, je les invite à venir voir le vendredi 11 mars à partir de 15h au Préau des Arts. Ah, j'oublie, au Préau des Arts, nous avons aussi des tables de littérature parce que nous travaillons avec la librairie de l'Horloge et qui nous fait un choix.
C'est important de signaler la librairie de l'Horloge.
Voilà, oui, la librairie de l'Horloge qui nous fait un choix extraordinaire toutes les années. Nous sommes les intermédiaires, nous ne prenons aucun argent, rien, c'est toujours pareil, c'est pour qu'on sache que même en littérature, il y a des femmes extraordinaires. Voilà, donc on souhaite recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes.
Alors moi j'aimerais quand même connaître, vous avez des sites, je pense qu'il y a un site, peut-être de l'une, de l'autre, des numéros de téléphone, des endroits où on peut vous trouver, super important pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés.
Alors, vous pouvez nous contacter. Moi, personnellement, j'ai un mail et j'ai un numéro de téléphone. On peut me contacter quand vous voulez. Donc, mes téléphones, c'est Daniel, Association Karine Mann, 04 90 60 39 09 et le 06 03 12 30 26. Mon mail, c'est aed.k.m@wanadoo.fr. Sachez que mon bureau est à Carpentras, que j'ouvre toujours les portes même aux femmes, et s'il faut les accompagner, comme je l'ai fait dernièrement, au commissariat de police pour qu'elles se sentent épaulées et reçues par le commissaire.
Et soutenues,
et le commissaire qui a soutenu ce que je lui disais de faire, et c'est une femme qui ne voulait faire qu'une main courante et qui a porté plainte.
Voilà.
D'où l'intérêt de ce lien.
Peut-être un dernier mot sur la COP21. Vous vouliez dire un petit mot, André, ou c'est rapide ou pas?
Non. La COP21, elle suit son cours et les femmes se rendront compte qu'il n'en sort pas grand-chose.
Ben écoutez, j'étais très heureuse de vous recevoir à l'émission. Je vous remercie d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. Merci André, merci Daniel. Et peut-être un jour, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
Was it the same for things? Making you so crazy about you?
Oui, vous êtes toujours sur RTBFM, l'associativement votre, pardon. Et je reçois maintenant la Passerelle, c'est une association carpentracienne, avec Marie-Christine Lanaspez, qui est présidente, et puis qui est avec Chantal Duquerou, elle va me corriger peut-être, historienne de l'art et conférencière. Donc j'aimerais un petit peu savoir d'abord sur l'association, déjà pourquoi le nom La Passerelle, Marie-Christine ou Chantal ?
Alors, moi, je n'étais
pas au
début.
Quand on a créé l'association en 1996, donc, après avoir cherché un titre, alors voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment valait-il l'appeler, on a eu pas mal d'idées, et puis la passerelle nous a semblé effectivement un moyen terme, c'est-à-dire donc cette, l'idée du passage de l'œuvre d'art vers le connaisseur ou l'œuvre d'art vers celui justement qui ne connaît pas et qu'on pourrait éventuellement peut-être amener à connaître. Voilà.
Voilà. Cette association date de quelle année ?
1996.
Voilà.
Donc ça fait 20 ans cette année. On va essayer de faire un événement pour attirer davantage de gens vers l'art et l'histoire de l'art.
Vous êtes combien à peu près dans cette association ?
Alors, il y a une 50 à 60 adhérents et puis il y a des personnes qui viennent ponctuellement pour une conférence, pour un cycle, voilà.
Est-ce qu'il faut s'y connaître pour faire partie de votre association ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des bases de l'art ? Est-ce qu'on doit dessiner, sculpter, je sais, moi, s'intéresser déjà ?
Oui, je crois qu'il faut avoir de l'intérêt déjà. Ensuite, il faut venir voir, il faut venir écouter. Je tâche d'être le plus clair possible. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas pendant 20 ans, parce qu'il y a des moments, on ne sait pas trop bien ce que l'on dit peut être reçu par le public, mais en règle générale, je pense que si on existe toujours, au bout de 20 ans, une association culturelle à Carpentras, qui essentiellement parle d'histoire de l'art, je crois que si on existe toujours, c'est que...
Et qu'il y a du monde toujours
c'est
qui
qu'il
vient,
doit y avoir quelque chose quand même. Ça
alors on va
plaire.
Peut-être parler un petit peu de vos activités. Au niveau historique, il n'y a pas trop de choses à dire. Vous êtes là depuis très longtemps, toutes les deux. Est-ce que ça bouge beaucoup ? Est-ce que vous avez des nouveaux adhérents ? Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres adhérents ? Et comment vous faites pour fonctionner ? Est-ce que vous avez une communication particulière ?
Alors, on essaye d'être ouvert à d'autres adhérents. Il y avait un public très fidèle, mais qui vieillit un petit peu. Donc, on souhaiterait aussi un peu s'orienter vers les jeunes, si c'est possible. Là, la mairie de Carpentras est en train de créer une carte jeune pour des activités culturelles. Alors, on s'inscrit un peu aussi là-dedans pour pouvoir communiquer avec les jeunes. Sinon, on informe au maximum les journaux, l'office du tourisme, les services communication de la mairie, les radios, parce que on annonce la conférence chaque mois ici.
Et la création d'un site récemment.
Un site internet.
C'est tout nouveau alors la création du site.
Un site internet. On peut donner son nom.
Ah mais il faut absolument.
La passerelle 84.free.fr.
Donc si je dis 84, est-ce que vous êtes qu'au niveau du Vaucluse ou est-ce que vous connaissez d'autres associations qui fonctionnent comme vous et est-ce que vous avez des liens avec ?
Non, pas vraiment.
Vous êtes une ancienne association de Carpentras sur Carpentras dans le Vaucluse.
Oui. Puis je crois bien que nous sommes tout seuls. Hein. Quand on a commencé, on savait pas trop. On savait pas trop déjà où aller, dans quel lieu, dans quelle salle on pourrait fonctionner. Je me souviens d'ailleurs plus tout à fait au départ comment ça s'est passé, mais relativement vite, le centre culturel nous a proposé la petite salle du théâtre. Et puis on a commencé à une vingtaine de personnes, vraiment très peu, et puis progressivement. Ça a dépendu, pas forcément des présidences, mais du public. On a commencé avec des randonneurs. Et puis, parce que un des secrétaires au début était randonneur, donc il est venu avec son groupe de randonneurs. Et puis après, on a ça a été varié. On a eu des gens. Et puis, on a commencé à avoir des fidèles. Voilà.
Des fidèles
qui venaient une fois par mois, régulièrement, à ces fameuses lectures de tableaux, parce que je n'avais pas voulu appeler ça conférence, parce que ça faisait voilà,
un
trop
pompeux à l'époque, bon, peut-être.
Donc lecture de tableau, c'était plus tranquille, ça revenait strictement au même, mais enfin bon, c'était... voilà. Oui. Et puis, les cycles sont venus plus tard.
Oui. Hein. Alors, les cycles, on approfondit les choses, puisque c'est 4 fois 2 heures, quand la conférence est 1h30. Mais lecture de tableau, il y avait quelque chose de très attractif, et de voir, parce qu'on fonctionne évidemment avec des images, hein. Au début c'était diapositives, maintenant on a un ordinateur, vidéoprojecteur, mais de voir des images là avec les couleurs, l'organisation du tableau, je trouve que c'est très séduisant, ça, c'est... Et bon, on s'est un petit peu diversifié aussi parce qu'on peut parler de civilisation, par exemple, on vient d'avoir un cycle de conférences sur les Médicis. On a eu 3 conférences, un petit peu différents, mais toujours avec des images sur les monuments, sur la ville, sur les sur les artistes de cette époque.
Oui.
Alors après les lectures, je te redonne la parole. Il y avait...
Mais oui, voilà, donc il a fait, on était, je ne sais pas, il y a 2 ans à peu près, deux ans, où moi j'ai exprimé le désir d'arrêter les conférences une fois par mois. Ça faisait 18 ans et je trouvais que ça, voilà quoi, je fatiguais. Et je pense que le public aussi peut-être, certainement aussi un petit peu, parce qu'il faut se renouveler et puis à chaque fois trouver un sujet différent et puis y aller quoi, vraiment. Donc moi j'ai arrêté donc les conférences une fois par mois pour me consacrer uniquement au cycle, tous les 15 jours le lundi, et d'autres personnes sont rentrées dans l'association comme conférencier, et je pense que ça va, oui. Voilà, on a trouvé peut-être bien un autre souffle, je crois que c'est ça, il faut trouver maintenant, rester dans cette perspective histoire des arts, parce que ça c'est important, hein. L'histoire de l'art c'est l'histoire des hommes, donc c'est important, je crois.
Voilà. Oui, c'est l'histoire des sociétés, des cultures, des civilisations. C'est extrêmement riche, je trouve, beaucoup plus que ce à quoi moi je m'attendais au début, justement en venant voir des tableaux. Hein.
D'accord. Ben, on va envoyer une petite pause musicale et après on se retrouve, peut-être pour nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené à créer cette association.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune, RTVFM à Carpentras sur le 102.2.
Y'a des filles qui ont du style, aux allures de rockstar. Y'a aussi des filles au style, et c'est l'open au bar. Ce soir plus rien me choque, quand elles ondulent sous les spot. J'ai envie de les croc, que personne ne me stoppe. Stop. Y'a relax, détends-toi, quand je m'approche. Rien de sérieux, il ne faut pas. Y'a des filles qui me font rire, d'autres qui veulent mon oseille. Y'a celles qui te cassent la tête, celles un peu rondes mais belles, celles qui te remettent en place. En fait y'a tout ce que j'aime. Y'a qui relax, détends-toi. Quand je m'approche, rien de sérieux il ne faut pas. Si c'est pas elle, ce sera toi. Mais je veux surtout pas faire d'histoire. J'ai même plus
avec laquelle d'entre elles vais-je rentrer ce soir? Est-ce que ce sera toi, toi ou toi? J'suis motivé ce soir. J'ai pas envie de rentrer. Y'a tellement de filles que je vois. J'ai même plus où regarder. Elles sont toutes sexy, sexy. Elles sont toutes sexy, sexy. Elles sont toutes sexy, sexy.
Je suis avec Marie-Christine et Chantal qui font partie de l'association La Passerelle. Peut-être Chantal va nous expliquer un petit peu comment elle est venue à faire ses conférences, tout simplement dans une association culturelle.
Oui. En 95, quand nous sommes arrivés donc, à Carpentras, nous arrivions de Chartres. Et à Chartres, j'avais travaillé pour l'office de tourisme, où je faisais visiter la cathédrale et la ville. Je travaillais donc à l'office de tourisme, au musée des Beaux-Arts, où j'assurais des cours pour les enfants, à la société archéologique de Ré-Loire, où j'approfondissais mes connaissances sur la cathédrale. Et j'étais à peu près convaincue, en arrivant ici, que j'allais fonctionner un petit peu de la même manière, c'est-à-dire pas trouver un emploi à plein temps, non, non, mais travailler quelques heures par-ci, par-là, pour des associations, pour... Bon. Et puis je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout, ça. C'était un fonctionnement qui n'existait pas ici. Donc, après avoir rencontré quelques personnes à la DRAC, à Aix-en-Provence, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, j'ai compris qu'il fallait que je me prenne par la main et que j'aille à la pêche. Donc, à la pêche, j'avais commencé à le faire. J'ai commencé à le faire très tôt. C'est d'ailleurs, je pense, aux alentours de octobre-novembre 95, que nous avons dû rencontrer nos amis Georges et Paul, avec lesquels on a fondé donc la passerelle, Jens Tumfel, Paul Bernard, Georges Labatie et Chantal Duquerou. Voilà, à quatre, on a... fondé cette association dans le but de me donner la possibilité de parler de ce dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire d'art, puisque ma formation va dans ce domaine. J'ai fait l'école du Louvre et j'avais envie donc de continuer quelque chose que j'avais commencé à Chartres, et j'avais envie vraiment de le continuer. Mais voilà, je me heurtais à des difficultés, donc la solution c'était de fonder une association et d'essayer comme ça. Entre-temps, en 96, on en parlait avec Marie-Christine d'ailleurs tout à l'heure, j'ai cherché un petit peu partout, à Campredon, à l'Île-sur-la-Sorgue.
Il n'y a donc, rien sur Avignon ?
À Avignon, j'ai cherché, difficile à trouver. J'ai fait un courrier au conservateur du musée du Petit Palais, et là, ça a été la grande surprise et puis ma grande chance. Hein, je suis rentré au musée du Petit Palais en 96 en créant des ateliers enfants. Par la suite, j'ai créé, grâce au conservateur, avec l'appui du conservateur bien sûr, des ateliers adultes, et j'y suis resté 17 ans. Donc j'ai travaillé 17 ans, je suis parti en 2013 au musée du Petit Palais. Ça a été une très très grande chance pour moi, parce que j'ai pu approcher une des collections les plus importantes françaises, on peut dire, de primitifs italiens, ainsi que d'ailleurs que de primitifs provençaux. Donc là, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé d'ailleurs pendant quelques années parallèlement au musée Calvet également, en faisant une œuvre, c'est-à-dire la présentation d'un tableau, voilà, une fois par mois, un petit peu d'ailleurs dans l'esprit de la passerelle, hein, voilà, ça se passait au musée comme ça se passait à l'association. J'ai fait sensiblement le même schéma, c'est-à-dire que présentation effectivement d'un peintre et d'une œuvre, Ça, c'était en musée. Pour la passerelle, c'était un petit peu différent parce que je montrais l'œuvre. C'était, par exemple, si on prenait le cas d'un grand créateur comme Matisse, c'était resituer Matisse dans son contexte social politique, bien sûr, parce que c'est important, et puis présenter l'œuvre et les artistes qui sont autour. Voilà. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Cette fameuse histoire de lecture de tableaux, c'était ça en fait. C'était lire des tableaux de l'œuvre d'un peintre, mais forcément présenter l'artiste. Voilà.
Quelle période il a peint ?
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis que se passait-il à cette période, effectivement, peindre en 1943, c'est pas pareil que de peindre en 1920, comme de peindre en 1965, ou voilà. Donc c'est important, vraiment important, de resituer dans le contexte. Hein. Et c'est valable d'ailleurs pour toutes les périodes de l'histoire de l'art. Hein. J'ai l'habitude de dire et de répéter sans arrêt qu'il faut replacer l'œuvre.
Alors une petite explication aussi sur cette fameuse école du Louvre à Paris. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Pourquoi on y va ? Quelles sont ses passions ? Et pourquoi ce choix ?
Oh, ben parce que ça, c'était en moi depuis longtemps, ça. Je devais être...
Est-ce qu'on a des amis ? Est-ce qu'on voit
des choses ? Je crois que j'étais en classe de 3e quand j'ai dit à mes parents que je voulais être maître verrier. Et alors ça a été abominablement mal reçu, cette affaire-là. On m'a dit, tu passes ton bac, la fameuse affaire, et puis on verra après. Pour avoir rencontré des verriers, je me suis fait... j'ai compris. Les verriers m'ont fait comprendre que... Un maître verrier plaçait son vitrail, c'est lui qui plaçait son vitrail, et que ce n'était pas un travail de femme.
Déjà, je me rappelle, voilà, on est dans l'actualité pour la semaine.
Je me rappelle tout à fait de cette remarque que m'avait fait Claude Barre, un grand verrier d'Amiens. Et j'avais ça dans la tête. L'histoire de l'art, ça a commencé pour moi très tôt. Je me rappelle avoir dans ma chambre, accroché au mur, à la fois un portrait de Van Gogh et dans le même temps le même portrait d'un Van Gogh sur la route par Francis Bacon. Donc j'ai 16 ans, 17 ans. Donc non, je crois que c'est voilà quoi. Et j'aurais pas pu. J'aurais pas pu faire autre chose. L'école du Louvre a été tardive parce que j'ai pas pu le faire.
Alors comment on rentre dans cette école déjà ?
On rentre.
Il faut un certain niveau quand même.
Déjà, on n'y rentre pas comme ça. Non, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs à ce sujet parce que j'étais mariée. Il fallait que je travaille. Et les deux ne vont pas ensemble. Si on est à l'école du Louvre, on ne travaille pas. On passe son temps à étudier. On passe son temps dans les musées, mais on ne travaille pas. Bref, il y a eu un arrangement. J'ai eu effectivement beaucoup de chance pour pouvoir suivre ces cours qui sont apprendre l'histoire des civilisations, et pas qu'européennes, hein, internationales. On touche à tout, au Mexique, à la Chine, au Japon, à l'Europe, bien entendu. Et il y a un cycle de 4 ans. Et
4 ans. C'est toujours 4 ans, non ?
Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus maintenant. Ouais. Et ça débouche sur... On peut être éventuellement commissaire-priseur, guide conférencier. Je crois que le mieux, d'ailleurs, maintenant, c'est de poursuivre après l'école du Louvre. C'est pas s'arrêter là, parce que c'est pas... Bon, tout le monde ne peut pas être... Tout le monde ne peut pas être commissaire-priseur ou guide conférencier. Hein. Ça ne mène pas à la conservation. Hein. Disons qu'il faut, si ça peut éventuellement mener à la conservation, il faut ensuite passer des concours, bien sûr. Hein. Ce n'est pas en sortant de l'école du Louvre qu'on est conservateur, loin de là. Mais c'est une formation très intéressante et très rigoureuse, on va dire. J'ai beaucoup appris, moi, bien sûr. On touche essentiellement, bien entendu. On apprend essentiellement à connaître les collections du Louvre. Donc, voilà.
D'accord, c'est déjà un grand monde, tout ça. Et pour Marie-Christine a un autre vécu, sûrement.
Alors, moi, je suis venue à la passerelle, je dirais un petit peu en consommatrice, parce que j'aime les œuvres d'art, j'aime l'art. J'avais commencé à prendre des cours de dessin, de peinture, de pastel, et je me disais qu'il fallait s'y connaître un petit peu en histoire de l'art, hein, voir un peu tout ce qui nous a précédé, etc. Parce que mon métier, c'était d'être psychologue, c'était aussi une façon d'aller vers la création, l'imagination, et sortir des choses un petit peu lourdes, des angoisses de chacun, et voilà. comment je suis venue à la passerelle. Et je trouvais ça très intéressant. Et maintenant que je suis à la retraite, je peux m'investir davantage dans l'association.
C'est beaucoup plus important maintenant. Voilà. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur les lectures de tableaux. Donc, on a dit évidemment qu'il fallait resituer dans le temps, resituer tout ça. Et après, comment cela se passe quand on est adhérent et qu'on voilà, on aime l'art, mais on n'y comprend rien. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher pour la plupart de vos adhérents, et qu'est-ce qu'on peut trouver surtout?
Qu'est-ce qu'on vient chercher? Je ne sais pas.
Vous ne savez pas, c'est...
Ça, je ne sais pas, c'est bien le problème.
La beauté de l'art, l'amour de l'art le...
Oui, bah, de toute façon, je pense que oui. Si on vient, c'est qu'on a de la curiosité déjà. Est-ce que c'est la chose peut-être la plus importante? C'est la curiosité. C'est de se dire, je ne connais pas, donc je vais aller voir. D'ailleurs, on avait constaté, quand on faisait les programmes, préparer les programmes pour l'année suivante, on avait constaté qu'il fallait faire très attention, parce que pas mettre des peintres, justement, que les gens ne connaissaient pas, parce que le public ne se déplaçait pas s'ils ne connaissaient pas. Donc c'était, voilà. Oui. Mais ça s'est un petit peu arrangé, ça.
Oui, hein. C'est un peu une difficulté. Hein. Qui c'est celui-là, Hammershøi, par exemple, qui est un Danois.
Peintre danois du début du XXe siècle.
Moi, je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que quelquefois, les gens ont un peu de retenue ou de réserve, ce qui est dommage.
Pour Carpentras, ce sont des nordistes, les Danois, attention. Hein, vous avez fait aussi récemment, c'est une conférence, vous en avez parlé un petit peu sur...
Alors, on peut peut-être donner un
peu les prochaines... Oui, j'aimerais bien que vous parliez un petit peu des prochaines activités.
Les prochaines activités, alors on va démarrer des conférences sur la beauté, ce qui est quand même...
Je peux demander juste un petit truc, comment vous faites pour choisir vos conférences? Est-ce que vous... parce que vous avez envie d'en parler? Parce qu'on vous le demande? Parce qu'il y a une actualité?
Non, pas forcément. On a plutôt cherché des gens compétents, intéressants. Et je dois dire que depuis que Chantal a laissé les conférences, c'est elle qui nous a orientés vers des personnes qui ont des connaissances et une façon de faire passer les choses très intéressantes. Donc, et avec le conseil d'administration, on fait 6 mois, presque un an avant, on commence à penser à nos conférences.
Carrément, 6 mois avant.
Et au cycle d'histoire de l'art, s'il faut joindre des personnes, il faut... Hein, voir avec elles ce dont elles ont envie de parler, puis on choisit aussi ce que les gens aiment et connaissent bien, parce que quand on aime, on parle bien des choses, hein, c'est en général. Donc là, on va commencer un cycle sur la beauté. Je dis un cycle, mais que ce soit des conférences qui peuvent être prises individuellement. On peut venir une fois à une conférence et ne pas venir à la suivante. Alors nos conférences sont 4e vendredi du mois, à la chapelle des pénitents blancs à Carpentras, à 17h30, donc le vendredi, jusqu'à 19h. Et la prochaine est le 25 mars, c'est dans les paradoxes de la beauté grecque. Après, il y a la renaissance de la beauté, époque renaissance de la beauté. Et au mois de mai, ce sera la beauté contemporaine. Voilà, une émergence de la silhouette.
On est sur un thème, hein, ce thème, la beauté.
Oui, c'est voilà, là, c'est 3 conférences qui peuvent être prises de façon indépendante, mais qui sont toutes les 3 sur la beauté.
Il y a quand même un lien, voilà.
Oui, qui vont être animées par Sophie Bantin, qui est docteur en histoire et qui intervient à l'Université du Temps Libre à Avignon, comme moi-même et comme Joël Sacoman, qui a pris la suite... à la passerelle et qui, Marie-Christine, propose, elle propose
vient
quoi
de faire 3 conférences sur les Médicis, hein, à Florence, histoire d'une dynastie européenne, et qui, l'année prochaine, nous fera d'autres conférences, peut-être sur Pompéi, peut-être sur Palladio. Enfin voilà, on est en train de construire le programme. On marche avec l'année scolaire, disons, de septembre à septembre, donc on est en train de construire le programme 2016-2017.
Voilà. J'aimerais bien que vous nous disiez maintenant où on peut vous trouver, parce que c'est très important, un numéro de téléphone, un site.
Alors, on peut nous trouver. Les conférences et les cycles d'histoire de l'art sont annoncés dans le programme du Centre culturel La Charité. Chaque mois, donc, y a une petite gazette où on reparle des conférences qui est au centre culturel, à l'office du tourisme, et oui, c'est ça, en gros. Sinon, il y a
un
numéro de téléphone, alors c'est le mien. Je peux le donner, 04 90 63 43 61. Voilà, parce qu'on n'a pas de local particulier.
Et le nom du site, vous avez un site aussi?
Alors, le site, je le redis, lapasserelle84, tout attaché, .free, F-R-2-E, www.rtvfm.fr.
Eh ben, je vous remercie d'être venu au micro d'RTVFM. Et puis merci Marie-Christine et merci Chantal d'être venu avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bien.